Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Eh bien, cette émission est enregistrée dans une période un peu particulière, puisque après plusieurs mois de confinement au pluriel, de restrictions à nos déplacements, nous allons enfin pouvoir nous déplacer plus librement et envisager de pouvoir prendre des vacances. Ça nous a donc donné l'envie d'évoquer le voyage et d'évoquer de célèbres voyageurs qui sont venus à Périgueux, essentiellement à la période romantique. Pour ce faire, j'ai invité une personne qui va se présenter et qui nous parlera de ces voyageurs.
Bonjour à tous, donc Martine Balou, je suis d'abord membre de la Société historique archéologique du Périgord et puis je suis directrice du patrimoine pour la ville de Périgueux.
Bien, donc Martine, merci d'avoir accepté cette intervention et donc en voyant un peu dans l'histoire les récits de voyage, on s'aperçoit qu'ils commencent en fait vers la fin du 18e siècle. C'est surtout là qu'on commence à avoir des récits, et en particulier pour le Périgord et Périgueux.
On trouve des récits de voyageurs, et par rapport à notre thème, c'est justement, on citera Voyage en France, hein, de La Rochefoucauld entre 1781 et 1783, deux grands voyages dans le nord et dans le sud de la France, où il viendra à Périgueux, et il va décrire une ville pas forcément dans un charme profond, puisqu'elle est au milieu des inondations. Mais il va dire que c'est une ville fort ancienne et par conséquent fort mal bâtie. Ce ne sera pas notre plus grand argument touristique pour ce personnage-là, mais heureusement, Chateaubriand, en 1829, Chateaubriand passe donc à Périgueux, le 22 juillet exactement. Et alors lui, il va être conquis par la gastronomie. Il goûte le fameux pâté de Périgueux et consigne ses mémoires d'outre-tombe avec donc une mention particulière. Pour cette gastronomie à Périgueux, les perdrix dans leur tombe de faïence ne chantaient plus de différentes voix comme au temps d'Aristote. Le traiteur qui le confectionnait était alors Jean Foucault, le patron du Lion d'Or qu'on peut situer, qui se trouvait cours Fénelon, et ses terrines en faïence au musée d'art et d'archéologie. La gastronomie est déjà inscrite dans notre histoire. Et puis ensuite, ce sera une grande dame, avant d'être George Sand, donc Aurore du Devant, est venue à Périgueux à deux reprises pour plusieurs raisons. Cette femme au destin exceptionnel va traverser une première fois Périgueux en 1825 et y séjournera également en 1829. Elle avait quitté le 1er juillet 1825, le jour de ses 21 ans, Nohant, et elle était partie donc dans ce voyage aussi dit des Pyrénées avec Maurice, son fils âgé de 2 ans, et Casimir, son époux. Et sa première rencontre avec Périgueux est inscrite d'ailleurs dans l'histoire de ma vie, et elle apprécie l'accueil d'amis qu'elle retrouvera ensuite, qui sont les Molliettes, dont le chef de famille est receveur des contributions. Elle va profiter, elle est très coquine, de ce séjour pour se rapprocher quand même de Bordeaux et de son amant de l'époque, Aurélien de Sèze. Cette proximité, certainement, on va dire, explique l'enthousiasme de la romancière pour les distractions périgourdines. Elle évoque la messe, qui était aussi une institution. Pour elle, c'était un rendez-vous important. La revue militaire, n'oublions pas, avec les kiosques à musique. et elle raconte qu'un perruquier vient la coiffer deux fois par semaine, que l'air est si bon, qu'elle mange vraiment beaucoup. On ne sait pas exactement où elle va séjourner. Chance Vinel va revendiquer le lieu, puisqu'on a un lieu peint lèbre où elle aurait séjourné, ou peut-être elle serait juste passée, car lorsqu'on voit qu'elle arrive le 29, donc le 1er décembre 1929, le soir,
1829,
en soirée, et le trajet est très long pour aller à Chance Vinel, on pense qu'elle serait plutôt du côté du pont qui est devenu le pont des Barils aujourd'hui, qui était le pont de Tournepiche. Enfin, George Sand, aussi déjà pratiquant dans cette époque le spiritisme, aurait, dit-on, fait tourner des tables, comme l'aurait fait peut-être aussi Victor Hugo à la maison dite du pâtissier. Vous voyez, nous sommes toujours... dans la gastronomie. C'était un lieu qui se trouvait à la croisée de chemin. Bon, il y a aussi beaucoup de légendes sur les faits de sa venue, nous en sommes certains, sur son voyage.
Et Georges Sand, par contre, on ne sait pas exactement où elle a séjourné à Périgueux.
On ne le sait pas, car effectivement, il y a eu une étude qui a été faite d'ailleurs auprès d'une habitante de Chance Vinel et de la ville de Chance Vinel, mais il semble un peu douteux qu'elle soit restée à Chance Vinel. Elle a traversé, elle aimait cette campagne, elle parle de cette campagne, de ses amis Moliette, mais elle évoque quand même beaucoup la ville, et il semble que le trajet aurait été un petit peu éloigné quand même de Périgueux. Et on sait qu'elle va vraiment apprécier cette ville, et qu'elle en fait cette description. Ce qui est intéressant, c'est de le retrouver aujourd'hui consigné dans des œuvres littéraires, ce qui permet des véritables parcours aussi que l'on peut réaliser dans la ville, puisqu'elle la décrit. Et on est dans une époque où tout est en train de changer,
de
en train d'évoluer, et une ville qui va se remodeler, qui déjà sort de son corset de rempart.
Voilà, donc Georges Sand fait en quelque sorte une promotion de la ville de Périgueux dans ses œuvres.
Elle va faire, elle va parler de Périgueux, ce sera intéressant, parce que finalement... en évoquant la musique militaire, on évoque aussi les grands tracés qui se sont faits, sur le cours Montaigne, la pelouse. Donc c'était aussi une grande promenade. Et puis en 1829, les premières mesures d'urbanisme qui viennent d'être prises avec l'arrivée d'un jeune architecte, donc Louis Catoire, qui va bouleverser ce parcellaire. Et elle dit: comment ne pas aimer cette ville à la fois rurale, en pleine transformation urbaine, sur un modèle parisien.
Et en même temps, l'activité militaire était l'activité principale de Périgueux, en dehors de tout ce qui se passait autour de l'agriculture et des métiers de bouche. Périgueux était une ville de garnison à l'époque. Il n'y avait pas encore d'industrie, il n'y avait pas beaucoup d'autres activités.
Nous sommes effectivement une ville de garnison, avec la naissance aussi de ces belles promenades qui se font sur les allées Tourny, déjà tracées au XVIIIe siècle par l'intendant Tourny, avec ce belvédère où elle va aimer se promener, puisque certainement elle y va assez souvent. Elle cite cette musique militaire, et puis en même temps le paysage qui donne sur les puits, belvédère, belvédéré, ces banquettes de pierre qui permettaient aux promeneurs de prendre un petit peu de temps. Elle est conquise par cette ville qui prendra effectivement des airs parisiens.
Et alors, quelques années plus tard, c'est un autre grand romantique qui parle de Périgueux, c'est Victor Hugo.
C'est Victor Hugo. Alors Victor Hugo, lui, va venir dans des circonstances aussi particulières de voyage. Ces grands voyageurs et ses émotions ressenties à Périgueux. Et ses écrits se retrouvent donc dans le carnet dans ses carnets des Pyrénées. Il arrive donc le 5 septembre donc 1843 et 4-5, je dirais, septembre 1843, il va rester à Périgueux, pardon, et il arrive, il s'arrête à l'hôtel des messageries qui se trouve aujourd'hui, on pourrait le situer via Santé. Il arrive en diligence, ce bel hôtel particulier qui deviendra aussi un grand hôtel, l'hôtel Domino, avec sa maîtresse Juliette Drouet. Et il va séjourner à l'hôtel Gros de Bel Air qui servait aussi de quartier militaire, hôtel de la division, l'hôtel de Bel Air qui est un très magnifique hôtel sur un modèle italien. Il va séjourner donc 2 jours. Il va découvrir la ville d'une manière particulière, comme on peut presque la découvrir aujourd'hui, du haut de Saint-Front, sur les toits. Lui, il ira encore plus haut, sur les clochers. Et il va consigner ses écrits en donnant donc une vue extraordinaire sur les toits, les pignons et la tour de Visonne également.
Avec la différence que c'est pas tout à fait le Saint-Front qu'on connaît maintenant, puisque Viollet-le-Duc, enfin, l'école de Viollet-le-Duc n'était pas passée par là et il n'y avait pas tous les petits clochetons.
C'était
et il n'y avait pas les coupoles. Enfin, il y avait des coupoles intérieures.
Il est monté dans le clocher.
Le clocher.
Lui, il
principal.
A eu cette chance, le vieux clocher, avec beaucoup d'émotion. Il décrit cette ville incroyable, avec un labyrinthe de toits aigus, un paysage en 2 parts. Il avait bien la vision de 2 villes, une ville rousse, une plaine verte, l'île Jolie Rivière, qui marque la séparation, un cercle de collines qui borde et clôt le bassin. Et au fond, on aperçoit la tour de Visonne, en Visonne, enfermée, où l'on peut faire des visites, premières visites guidées, puisque Villegrine de Taillefer, cet érudit local, avait obtenu de pouvoir l'inclure dans son enceinte privée pour pouvoir mieux l'étudier. Et Victor Hugo va laisser quand même une trace à Périgueux. C'est le nom d'une rue, la rue Victor Hugo, qui est à l'angle donc et ce carrefour de voies près de l'hôtel Gros de Bel Air, cet hôtel qui aussi lui a été déplacé puisque lorsqu'il va venir, il était en dialogue avec l'hôtel Brou de Laurière juste en
voilà,
en
sont
face.
Les deux bâtiments principaux qui sont en bas de l'actuelle avenue Pompidou.
Pompidou, et il a cet hôtel particulier a été déplacé pierre par pierre dans les années donc 1955 par l'architecte André Secret. Il a failli même d'ailleurs disparaître pour mettre à l'alignement toutes les demeures, toutes ces façades qui sont dans sur le cours Tourny. C'est pour cela qu'on a une allée très rectiligne et très, très élégante. Donc, c'est une histoire importante. Et puis, il ira aussi un peu plus loin sur cette rue Victor Hugo, dans la forêt, à la chapelle Gonaguet. Il a des amis. Magnifique château de Bruny qui est devenu une résidence. Et peut-être que là, il aurait rencontré, pourquoi pas, son Jean Valjean. On a souvent émis l'hypothèse que Quasimodo c'était dans le clocher, sauf qu'il avait écrit les écrits étaient précédents.
Antérieur.
Mais on aime bien
et qu'il est quand même resté plus longtemps à Paris qu'à Périgueux.
On aime bien être chauvin un petit peu à Périgueux, mais son séjour sera marqué aussi d'une grande tristesse puisque 3 jours après, à Rochefort, il va apprendre la mort tragique de sa fille Léopoldine qui s'est noyée avec son mari. Et nous aurons ce magnifique poème « Demain des lobes » qui sera écrit par la suite par Victor Hugo, et Victor Hugo qui va changer
Évoqué Victor Hugo, je me demandais si justement « À l'heure où blanchit la campagne » correspondait à la saison à laquelle il est venu. Effectivement, ça peut... En septembre.
Il est venu en septembre,
En septembre, il peut y avoir les premières gelées. Donc, le matin, en septembre, la campagne peut blanchir.
Mais il a écrit un petit peu après, donc septembre, octobre, vous avez raison, quand il apprend et il rentre dans une autre saison, il devient aussi... très, très maussade, très, très, très attristé, et il changera d'ailleurs un petit peu de...
Ça va être une période, un changement politique également pour lui. C'est un tournant de sa vie.
Il reviendra à Bordeaux ensuite, mais pas à Périgueux.
Bien. Alors, nous venons d'entendre une musique qui n'a rien de périgourdin, mais qui va peut-être nous orienter vers un autre visiteur que vous souhaitiez évoquer, qui est Eugène Delacroix.
Eugène Delacroix, dans son volet orientaliste, puisque c'est le premier orientaliste qui est mandaté donc pour un voyage, on va dire, d'études, et qui va aussi être à l'origine de croquis, ces magnifiques croquis. Et on l'oublie parfois, Eugène Delacroix est de passage à Périgueux. Un petit passage, le 16 septembre 1855, il s'arrête, comme Victor Hugo l'a fait, à l'hôtel des messageries, et il va séjourner à l'hôtel de l'univers. L'hôtel de l'univers, où était cet hôtel ? L'hôtel de l'univers, eh bien, c'est actuellement l'hôtel de ville de Périgueux. C'était le célèbre hôtel de l'abbé d'Aïdi du XVIIIe siècle. Il fut un pensionnat de jeunes filles, et puis ensuite transformé en grand hôtel avec un chef Simon très réputé. C'est important peut-être de dire cela. Il apprend à ce moment-là la prise de Sébastopol, et la gastronomie devait être certainement bonne aussi, parce que peut-être que le vin va lui faire tourner un peu la tête, mais non. Soyons modestes, dans son journal intime, il fait une véritable ode à la femme. Il va dire « Je sors enchanté de ce que je voyais, et particulièrement de la beauté des femmes que je trouve dans tous les environs, on ne peut plus piquante. Je trouve même la vraie beauté, le piquant uni à une grâce et une correction qui n'est pas dans le Nord et que Paris n'offre jamais. » C'est extraordinaire pour nous les femmes.
Les périgourdines sont à l'honneur.
Les périgourdines sont à l'honneur. Et il faut quand même savoir qu'il y a un lien avec Périgueux, puisqu'il a rencontré à Paris le peintre aussi célèbre Émile Lafond. Il ne sera pas, Émile Lafond ne sera pas son élève, mais ils vont se rencontrer, et Delacroix va beaucoup l'encourager. Et je rappelle que ce peintre est à l'origine donc du chemin de croix à la cathédrale Saint-Front. C'est aussi important. On est dans une période où l'on voyage et où Périgueux a quelques touches d'orientalisme, pas tout à fait encore accentuées comme lorsqu'il va venir, mais il y a une maison mauresque dans la rue Michelet. On aura aussi à la fin du 19e siècle la loge des franc-maçon avec ses touches qui rappellent l'Orient. Et puis aujourd'hui le musée d'art et d'archéologie, avec un superbe tableau de l'abbé qui est un autre orientaliste, nous rappelle que nous pouvons imaginer Delacroix va être charmé par cette ville avec ses airs d'Orient, déjà avec le plan de notre cathédrale Saint-Front, parce que quelle que soit sa restauration, le plan restera toujours le même, ou sa reconstruction, son plan à croix grecque, qu'il ne faut pas oublier, cette influence que l'on doit avec ses croisades, ces influences que l'on voit, c'est en Arménie, et que l'on va adopter dans notre ville. Cela est important.
Donc si Delacroix n'a pas, à notre connaissance, laissé de tableau, n'a pas peint lui-même Périgueux, il s'y est senti bien parce qu'il sentait cette atmosphère orientaliste qui correspondait à son inspiration de l'époque.
Très certainement, il était tout près finalement de la cathédrale qu'il a pu donc découvrir déjà, et on est en 1855 dans ses prémices.
Et avant que la cathédrale ne soit encore plus orientalisée par son côté byzantin.
Tout à fait, mais il y a cette influence dans la ville importante qui est marquante aussi.
Voilà, et puis vous souhaitiez citer aussi un autre visiteur un peu plus tard. On n'est plus dans l'Orient, on est même dans l'Extrême-Orient.
Voilà, il fallait aller juste dans l'Extrême-Orient. Ce visiteur dont on a peu d'éléments, mais que l'on retrouve quand même en 1858, donc le jour, dit-on dans les textes, de la Sainte Enfance, c'est-à-dire que c'est le 17 mai. Et c'est un évêque, Monseigneur Péry, qui est vicaire apostolique de Kouetcheou, qui est donc sur la carte d'Extrême-Orient, comme vous le dites si bien, et qui est présent à la cathédrale, puisqu'on était en lien avec la cathédrale. Et il y a vraiment ce jour-là une interrogation de tous les fidèles, car ils se demandent quel est ce personnage, ce jeune donc chinois qui l'accompagne. Et Périgueux est en train finalement de découvrir un autre monde. S'ouvre sur un autre monde.
Kouetcheou est en Chine ou c'était dans ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine ?
Dans l'Indochine,
oui, d'accord,
tout à fait.
Donc c'est la période de la colonisation aussi du Vietnam, de l'Indochine, de la Cochinchine, de toutes ces...
Et c'est la grande curiosité pour les périgourdins qui finalement découvrent un autre monde. Et puis cet autre monde, on peut le relier aussi au début des premiers trains du chemin de fer, hein, puisque c'est en 1857, donc déjà des voyages. Périgueux va devenir une ville de villégiature avec d'autres lieux plus proche, comme Biarritz, on a toute cette influence.
Et Périgueux va être une ville-étape, en quelque sorte, pour les gens qui descendent vers les Pyrénées.
Vers les Pyrénées, et puis on a aussi cette grande aide avec un ministre, Pierre Magne, qu'il ne faut pas oublier, et qui va tout faire pour que cette ville s'épanouisse, s'ouvre vers le monde et soit reliée au monde aussi, c'est ce qui est important.
Et devienne aussi une ville industrielle. On évoquait tout à l'heure le fait que c'était une ville de garnison, ça va rester une ville de garnison jusqu'en 1995, même un peu plus. Mais par contre, ça va devenir, sous le Deuxième Empire, une ville industrielle avec les chemins de fer.
Un essor industriel absolu, c'est la conquête vers l'ouest et cette grande ouverture avec la saga aussi des grands industriels, des manufactures de filatures, de l'agriculture, des comices agricoles et Périgueux à des airs très parisiens qu'avait déjà vu finalement.
Et en même temps, sur le plan de l'urbanisme, c'est aussi la conquête vers l'ouest, puisque c'est tout l'ouest de la ville qui va se développer.
L'ouest,
avec les cités ouvrières, avec les ateliers, avec
l'organisation de nouveaux quartiers qui nous amène aussi vers d'autres. D'autres voyageurs plus tardifs qui vont découvrir un autre Périgueux. Périgueux a ses différentes facettes, finalement, au cours des siècles et vues par nos différents voyageurs.
En effet, donc, au XXe siècle, vous souhaitiez évoquer deux autres auteurs. On sort du romantisme.
On sort du romantisme, on sort de l'orientalisme, mais on est dans une autre vie. Et justement, comme nous le soulignons ensemble, Périgueux, la conquête vers l'ouest qui entraîne une autre ville, un monde ouvrier qu'on ne connaît pas, des agriculteurs qui viennent travailler dans les usines qui ne sont pas toujours bien formés. Donc on fait venir encore d'autres personnes de l'extérieur. Et puis ce sont des cadences ouvrières extraordinaires. Et donc évidemment, Paul Nisan dans Georges Bloyer qui va donc nous situer une vie trépidante qui va se passer à la fois dans les quartiers du Toulon pour trouver ces ateliers et toute cette vie qui longe la voie de fer, mais aussi en remontant vers le centre avec les quartiers bourgeois. On sent bourgeoise, on sent canaille, on n'a pas les mêmes vies et c'est des couches sociales différentes qui se côtoient. C'est aussi important de voir ce Périgueux qui est un peu parcellé avec ses quartiers et avec ce monde qui va se lire aujourd'hui dans le paysage, dans l'architecture du 19e et du 20e. Et il y a là vraiment un travail extraordinaire qui a été fait par cet auteur et qu'il ne faut pas oublier.
Alors effectivement, souvent quand on évoque Paul Nisan, on évoque aussi Sartre. Et c'est étonnant que Sartre, qui avait des origines périgourdines dans sa famille, lui, Sartre n'a pas jamais évoqué Périgueux dans ses œuvres, n'y est pas venu non plus que l'on sache.
Pas à ma connaissance, on va dire, je vais faire un petit clin d'œil à Monsieur Sartre qui est président conservateur du musée militaire et qui est aussi qui a des liens avec sa famille. Donc on peut dire que on a une continuité aujourd'hui
familiale. Enfin, c'était une famille, c'était le père, je crois, de Jean-Paul Sartre qui était originaire de la région
de Tivier. Tout à fait.
Mais ses parents ont divorcé rapidement, si je ne m'abuse.
Voilà. Alors, je fais un peu de psychogénéalogie. On a dans son sang toujours des liens avec les familles, quelque part.
Et donc, un autre auteur du XXe siècle évoque également Périgueux dans un roman.
Alors, Aragon, on n'en parle pas forcément à Périgueux. Et c'est vrai que Aragon va, pendant la déroute de la France, être conduit à Périgueux. Capturé, il parvient à s'échapper et se réfugie dans une zone libre qu'est notre ville et rencontre d'ailleurs Pierre Segers en 1940. Et il va s'inspirer de Périgueux pour avoir comme cadre notre ville dans un superbe roman qui se nomme Blanche et l'oubli, qui sera à lire, à évoquer. Et on retrouve un Périgueux dans plusieurs époques, mais on pourrait avoir ce point commun avec nos voyageurs qui arrivaient sur cette place Francheville à l'hôtel des messageries, et avec Aragon, évidemment, il n'y a plus d'hôtel messagerie, un grand hôtel qui s'appelle l'hôtel Domino et qui a été plus tard l'hôtel Talleyrand et qui est devenu aujourd'hui Via Santé. Donc en fait, on voyage aussi dans les lieux.
Mais on remarque aussi que cet hôtel des messageries était à l'endroit où il y a eu ensuite cette espèce de verrue bétonnée qui trônait sur la place Francheville, qui était la gare routière. Et les messageries, la gare routière, c'est la même chose. Hein. C'est l'endroit où arrivaient les diligences et où arrivent ensuite les autobus.
Là, c'était l'hôtel des messageries, c'était un petit peu plus haut, hein, près de, c'est-à-dire exactement où est Via Santé, cet hôtel. Voilà, un peu plus haut, vous avez raison.
Et
on est dans un nœud routier, on est comme le décrit Victor Hugo, dans deux villes séparées, une ville qui... dont le legs de Francheville nous rappelle que nous avons une promenade aussi urbaine entre deux parties.
Voilà, eh bien, merci pour ce voyage littéraire autour ou à l'intérieur de notre ville. Et merci d'avoir fait participer nos auditeurs, à cette découverte. Et à eux de faire le voyage en achetant tous ces livres et en repartant voyager dans leur ville.
Je vous remercie de votre accueil et de m'avoir permis de présenter une thématique qui peut être aussi parcourue dans la ville et commentée.
Merci encore.